Pascal Cévé.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard. 3,
2, 1. Bon jeudi, ça va bien? J'espère que oui, j'espère que oui. Du soleil à l'extérieur, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, c'est beau, c'est chaud, même qu'on peut sortir en manche courte. Je vous le dis parce que ben, c'est important, si vous n'êtes pas encore sorti, de prendre un moment aujourd'hui pour en profiter de ce soleil-là. C'est énergisant. 16 mai déjà, on est dans la moitié du mois de mai, ça va extrêmement vite. Aujourd'hui, vous faites quoi? Vous êtes où? 88-971-102, je prends les présences, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Ou encore, venez nous rejoindre sur Twitch avec les caméras en studio, le twitch.tv/BLVD/FM. C'est un jeudi à caractère festif qu'on a dans leur CV, entre autres Carl Emmanuel Picard va venir faire son tour. C'est un agent, vous le savez, c'est l'agent aussi de Sarah Dufour, va venir nous parler de cette tournée qu'ils ont fait en Chine. Sarah qui est présentement à Montréal. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que c'était le fun? Bien, on pouvait lire quelques articles aujourd'hui dans l'actualité. Mais on avait parlé à Sarah, elle était un peu fébrile hein, avant qu'elle parte. Elle ne savait pas trop dans quoi elle s'embarquait, mais elle était super contente de le faire. Elle se demandait si elle allait conquérir le cœur des Chinois, parce que, ouais, elle faisait des spectacles dans des festivals, en fait, pour promouvoir sa musique, mais aussi promouvoir le Québec. Il y avait plein de choses qui étaient organisées pour amener un peu de Québec en Chine. Alors, c'est fascinant. Puis au-delà de ça, on va parler aussi de toute cette belle saison qui s'en vient à l'Agora du Port de Québec. Quelque chose qui s'est passé avec l'Agora du Port de Québec. Il faut revenir en arrière, mais cet été, ça risque d'en faire jaser plusieurs et d'en faire en sorte qu'on ait des souvenirs impérissables liés à des spectacles qu'on va aller voir dans cette magnifique ville de Québec. Pas pendant le Festival d'été de Québec, là, on parle de l'Agora du Port de Québec qui parsème au courant de l'été des visites comme Styx, des visites comme Ziga Birds, des visites comme Sum 41. Ça va être assez spectaculaire, merci. C'est presque tout vendu pour les spectacles qu'on va présenter. Ça veut dire qu'il y avait une envie, mais il y avait surtout une programmation de feu. Là, on vient de libérer quelques billets pour Styx le 24 mai prochain, si je ne me trompe pas. Puis, Carl-Emmanuel va nous parler, en fait, de tout ce qu'ils ont fait comme rénovation, mais aussi comme exploit pour amener des bands comme ça ici à Québec, dans ce magnifique lieu qui est, selon Reg Laplanche, un des plus beaux au monde pour voir un spectacle. C'est pas rien, puis il a dit ça en étant très, très sérieux. Donc, on peut le croire, on peut le croire. Bienvenue dans leur CV, mon nom est Pascal, Pascal CV. On est une heure ensemble. Et pour commencer l'émission, on y va avec notre fameuse phrase, notre fameux proverbe. Aujourd'hui, c'est « Qui couche avec les chiens se lève avec des puces », sachez-le. « Qui couche avec des chiens se lève avec des puces ». Je veux pas de nom. Ça serait un peu décevant qu'on commence à donner des noms, mais sachez que si vous couchez avec des chiens, vous allez vous lever avec des puces. C'est pas juste une image, hein? Pas juste une image de cabot. Non, c'est une image de la vie. Caravane, entre ma tête et mon cœur, on part ça maintenant. Merci d'avoir choisi Boulevard 102.1.
Leur CV avec Pascal CV.
Plusieurs soulignent le week-end de 3 jours qui s'en vient. Il y en a qui ont pris aussi la journée de demain. Donc, c'est comme une prévision de long, long, long week-end qu'on a par texto au 88-971-1021. Entre autres, Hélène qui dit « Hey, nous, on est en préparation pour une semaine de camping, hiking à Rimouski dans le parc de la Gaspésie la semaine prochaine. » Ils sont vraiment contents, en fait, de ce long week-end-là. Est-ce que vous allez en profiter 3 jours? Si vous avez oublié, comme certains des collègues ici, oui, on vous annonce officiellement que lundi, c'est congé férié pour beaucoup. Salut à Carl, à Cassandra, à Maryse, à Lisette, à Steph, à... Oh, Michel aussi est là. Patrick est là, ça c'est le fun. Fred, salut tout le monde. Salut Christian, salut Dave, salut Courtney. Courtney, méchant prénom de rockstar. Hey, on commençait l'émission normalement avec une entrevue, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous gâter parce que j'ai vu ça dans mes petits papiers. Vous savez qu'il s'en vient au Centre Vidéotron, notre cher Snoop Dogg. Et j'ai une paire de billets maintenant à faire gagner. Il sera là le 6 juin pour sa tournée Kelly to Canada Tour avec des invités comme Warren G, DJ Quick, Green Lantern. C'est super simple. Joignez-vous à tous les auditeurs qui m'ont parlé de leur week-end, de la préparation de ce long week-end-là au 88-971-1021. Et parmi ceux qui auront fait la salutation de la journée, ben, peut-être qu'on aura un gagnant ou une gagnante pour une paire de billets pour aller voir Snoop Dogg à Québec au Centre Vidéotron. I'm a nice dude with some nice dreams.
See these ice cubes, see these ice creams. Boulevard 102 et la
Leur CV Pascal Cévé.
Ouais, la météo aujourd'hui, ben, elle est plus que, qu'agréable. En fait, 20 degrés, c'est ce qu'on attend sur la grande région de Québec. C'est du soleil depuis ce matin. On ressent actuellement 14, mais c'est ça, ça va monter jusqu'à 20. Et puis, pour toute la semaine, là, tout ce que je vois, c'est des augmentations de température. Aujourd'hui, 20. Il y a seulement demain, 19. Après ça, samedi, 23. Dimanche, 22. Lundi, 25 degrés, avec du soleil pour tout le long week-end. Et la façon de gagner la paire de billets pour Snoop Dogg, ben, c'est un peu relié avec ce week-end-là, qui sera magnifique sur Québec. C'est au 88-971-1021. Juste me dire c'est quoi vos plans pour le week-end. Et vous allez probablement être dans le bassin pour gagner cette belle paire de billets-là pour aller voir Snoop Dogg au Centre Vidéotron début juin. En nouvelle, il y a beaucoup de choses à aborder. Entre autres, là, on va revenir sur la guerre des stupéfiants, les gangs de Montréalais qui ne veulent plus payer les Hells Angels. Ça risque d'augmenter les tensions. On en jase un peu dans tous les médias. Puis c'est surtout les grands dossiers là, qu'on a concentré en fait beaucoup d'énergie du côté de Québécois pour expliquer tout ça aux gens, pour s'assurer qu'on le couvre bien. Félix Séguin qui est un peu partout dans les médias aujourd'hui. Mais d'abord, quelque chose qui va vous faire fort plaisir, concours de circonstances, assez incroyable, merci. Le prix de l'essence devrait baisser. Du côté de Couche-Tard, là, on a distribué des rabais de 10 cents le litre sur l'essence partout au Québec. C'est le même jour, en fait, que le dévoilement de l'étude commandée par le ministre Fitzgibbon sur l'écart des prix et des marges des détaillants. C'est pour ça que je dis un peu un concours de circonstances, là. C'est aujourd'hui que ça se fait, ça. C'est aujourd'hui que ça se rend public, le gouvernement Legault qui va rendre public l'étude du professeur Robert Clark sur les disparités régionales du prix du carburant. C'est drôle parce qu'on en parle depuis des années, puis c'est comme si aujourd'hui, ben, du moins dans le talk of the town, là, c'est plus que jamais un enjeu qui va chercher les gens, peut-être avec l'inflation, peut-être avec le fait qu'on calcule un peu plus nos dépenses, je ne sais pas. Mais bon, rencontre entre le ministre Pierre Fitzgibbon et les patrons des principaux détaillants d'essence au Québec. Et on avait reçu le mandat du côté de M. Clark et du ministère de l'Économie d'étudier ce marché-là de l'essence pour se pencher sur les marges de profit des stations-service pour aller voir s'il y a des petites affaires là, qu'on pourrait ajuster. On veut aussi formuler des recommandations pour assurer une saine concurrence dans l'industrie. Est-ce que ça va changer quelque chose? Bien, on va le voir à plus long terme. On ne le verra pas maintenant, mais sachez qu'en fin de semaine, là, il y a des gros rabais qui vous attendent. C'est Couche-Tard qui distribue ces coupons-là, qui donne droit à un rabais de 10 cents par litre d'essence. C'est quand même important de le souligner. Merci. On va le dire. On ne veut pas faire de la publicité comme ça à tout vent, mais quand c'est pour le bien de tous et chacun, je pense que ça vaut la peine de le dire et que vous pourriez en profiter en fin de semaine, justement, pour parcourir le Québec avec un 3 jours de congé puis du beau temps comme ça. Peut-être que les campings vont être bondés. Je sais qu'il y en a certains dans la région qui ont ouvert puis des gens sont allés porter leur roulotte dernièrement. Ils vont peut-être en profiter, ces gens-là, les campeurs de la saison estivale. Si je reviens à la guerre des stupéfiants, oui, il y a des gangs montréalais qui ne veulent plus payer la taxe aux Hells Angels. C'est un peu ce qui est arrivé avec la gang à Picturmel. Donc, c'est pour ça qu'on parle peut-être de montée de tension, mais beaucoup de groupes criminalisés qui ont vu ça aller puis ont dit, ben là, si on est capable de ne pas la payer, cette taxe-là, puis que ça n'a pas affaibli notre gang ou la gang à Picturmel, mais ça affaiblit les Hells Angels, peut-être qu'on pourrait entrer dans la danse, nous aussi. Et voilà, des groupes criminalisés qui trempent dans le trafic de drogue, qui seraient prêts à tenir tête aux motards bien connu des Hells Angels. Et c'est là où il y a comme un changement d'air complet dans la criminalité. En fait, les gangs de rue et les autres groupes de crimes organisés qui existent, qui se disent Picturmel puis sa gang l'ont fait, nous aussi. Donc, ils ne veulent plus payer cette taxe-là, rappelez-vous, qui est imposée par les Hells Angels sur le marché des stupéfiants. Et ça permet justement d'avoir un certain contrôle puis d'être le groupe au-dessus des autres. Mais là, pas mal tous les groupes criminalisés veulent s'unir pour défier cette autorité-là des motards. Puis il y a des gens qui sont récalcitrants à ça, mais quand même, là, il y a des gens qui veulent aussi s'imposer. Donc, ce qui va me faire un peu farfouiller à travers les articles à partir des prochaines semaines, là, c'est de voir quelle gang va vouloir prendre le dessus. Parce que là, on s'unit contre les Hells Angels. Mais après, qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que le pouvoir pour ces gangs-là, ça reste quelque chose que tous veulent atteindre. Le sommet aussi. Puis, à un moment donné, peut-être qu'un autre gang voudrait cette fameuse ristourne de 10%-là qui est imposée par les Hells Angels aux trafiquants pour avoir un peu plus d'argent dans les poches, pour avoir cette affaire lucrative-là entre les mains. j'ai hâte de voir, mais en même temps, c'est un peu inquiétant. Il faut savoir que quand on fait du trafic de drogue, c'est pas des enfants de cœur. Surtout pas maintenant avec tout ce qui a sauté en termes de règlements non écrits, de respect de certaines règles de la criminalité. C'est fou à dire comme ça, mais c'est ça pareil. Et il y a une vague en ce moment de mécontentement, là. Ça coïncide avec la chute de 63 % du prix du kilo de cocaïne à Montréal. Donc, on fait moins d'argent. Et il y a un creux historique en ce moment, là. Le creux historique est à 18 500 $ sur un marché qui est inondé de cocaïne par les narcotrafiquants. Donc, oui, il y a des gens qui en achètent. Oui, il y a un marché qui est là. Ça ne vaut pas le même prix que ça valait. Et tout le monde s'arrache un peu ce marché-là. C'en est un. Et on ne veut plus payer aux Hells Angels le 10 %. Est-ce que ça va augmenter la violence, la guerre des stupéfiants? Ça serait dur de dire que non. En ce moment, c'est tout est contre les Hells Angels. Mais où est-ce que ça va se diriger? La semaine passée, on a parlé à Maria Mourani, là-dessus, criminologue, dans Marceau le midi. Si ça vous tente d'aller reprendre l'entrevue, elle est disponible sur le blvd.fm. Elle nous expliquait un peu où est-ce qu'on en était rendu avec tout ça et pourquoi ces gangs-là réussissent à tenir tête aux Hells Angels. Puis tout ce qui est clan à Québec, selon Maria Mourani, ben, pour les Hells Angels, ils sont un peu isolés. C'est à travers le monde, hein, ce groupe de motards-là. Puis il n'y a personne qui vient nécessairement les aider de d'autres clans, mais toujours au sein des Hells Angels à travers la planète. Donc, ils sont un peu isolés dans leur combat, mais c'est le cas de dire, dans leur guerre avec les autres trafiquants. Proposition des jeunes de la CAQ. Pas de réseaux sociaux avant 16 ans. Je vous explique. Il y a une commission jeunesse de la CAQ qui réclame en ce moment que l'âge minimal pour avoir accès aux réseaux sociaux, ça soit fixé à 16 ans au Québec. En ce moment, c'est à 15 ans. Donc, on augmenterait d'un an. C'est une proposition qui sera défendue par les jeunes caquistes et ça va être lors du Conseil national du parti. Ça va se tenir à Saint-Hyacinthe le 25 mai prochain. Revenons à nos moutons. Il y a quelques jours à peine, François Legault a rejeté et même tourné au ridicule cette idée-là d'instaurer une majorité numérique. Et c'était son rival péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon qui en avait parlé. Maintenant, les jeunes militants caquistes souhaitent que Québec soit encore plus strict que la France ou même la Floride, parce que France et Floride ont interdit aux moins de 14 ans d'ouvrir un compte sur un réseau social. Mais là, est-ce que c'est vraiment respecté? Moi, j'en doute fort, là. Est-ce que vous, auprès de vos enfants, vous avez choisi un âge précis auquel ils auront droit à se créer un compte sur les réseaux sociaux? Je suis curieuse. 418-971-1021. Est-ce que vous avez dit, bien, quand tu auras tel âge, tu auras le droit à avoir un compte sur les réseaux sociaux? Puis comment ça se passe? Je vais prendre vos commentaires parce que je pense qu'on va en reparler ce midi, puis ça va vraiment être intéressant d'avoir comment ça se passe à la maison. Mais d'en faire une loi, là, comme on a en ce moment au Québec, mais quand même de l'augmenter à 16 ans, je suis pas certaine que les gens le tiennent, là, ça. Probablement qu'ils cochent simplement « Oui, j'ai plus de 15 ans, puis je peux être sur les réseaux sociaux. » Mais c'est l'année dernière que le gouvernement français aussi a revu cette loi-là et l'a diminuée. Qu'est-ce qu'on demande du côté des experts? Qu'est-ce qu'on conseille, en fait, pour les réseaux sociaux avec les effets chez les jeunes? Je suis allée regarder un peu les petites notes que j'avais prises il y a quelques années là-dedans. En 2022, il y a au moins 86 % des jeunes entre 9 et 11 ans qui avaient un compte sur une plateforme 13 ans et plus. Donc, ce n'était pas nécessairement à respecter, voyez-vous. Et oui, on parle des effets négatifs, mais surtout sur l'estime de soi. C'est comme quelque chose qui revient toujours, là, mais on a démontré que plus un adolescent passe du temps sur les réseaux sociaux, plus il va se comparer aux autres, plus il va développer des troubles anxieux, des troubles d'estime de soi et des troubles de symptômes de dépression. Donc, en se comparant, en associant peut-être la vie de certains sur les réseaux sociaux à une vie qui est plus belle que la leur, mais ça cause beaucoup d'influence sur le plan de la santé mentale chez les adolescents et c'est à ne pas sous-estimer, malgré qu'on se dise « Ouais, ben c'est juste les réseaux, mon enfant, il se laisse pas berner par ça », mais de façon inconsciente, ce l'est quand même. Puis en plus, ben, c'est du temps que tu passes sur des écrans et non à te développer là, en tant que personne. Mais bon, ça a aussi des effets positifs, il faut le dire, chez les jeunes. Il n'y a pas juste du mauvais à l'utilisation des réseaux sociaux. Notamment, là, ça permet de communiquer entre eux, avec la famille, d'effectuer des travaux d'équipe. On le sait, c'est maintenant bien intégré dans le parcours et dans le cursus scolaire. Mais c'est considéré, malgré tout, comme le moyen de communication par excellence au 21e siècle, il faut le dire. Donc, on ne peut pas commencer à interdire ça aux adolescents. Et ça, c'est discuté aussi par les experts parce que le fait de l'interdire, de ne pas avoir accès aux réseaux sociaux, ça provoque l'effet inverse chez les jeunes. Donc, ça va juste amplifier le sentiment de contestation. Ils vont vouloir encore plus y passer de temps. Ils vont trouver une manière d'y aller dans le dos des parents. On a tous été adolescents, puis on sait très bien que quand on se fait interdire quelque chose, on trouve une autre manière, peut-être un autre chemin pour y accéder. Alors, c'est plus d'en parler, c'est plus d'être conscient de ces risques-là. Mais oui, c'est dans une génération où l'anxiété est à son summum, où on développe beaucoup plus de troubles anxieux qu'on en développait. Il y a une part des réseaux sociaux qui est associée à tout ça, ces problèmes de santé mentale-là. Donc, faut être au fait, faut être au courant, il faut en parler avec les adolescents, selon plusieurs experts. Je reviens sur le cas de Saint-Urbain. C'est important. Aujourd'hui, dans l'actualité, on parle encore de la mort des deux pompiers et on dit qu'il y a une culture de santé et de sécurité à implanter du côté de Saint-Urbain. Donc, il y aura des formateurs en sauvetage nautique qui vont continuer de crier très, très fort et recommander l'implantation d'une culture en santé et sécurité. Puis, j'en parle parce que, rappelez-vous, la solution qu'on avait trouvée dans les dernières heures du côté de Saint-Urbain, c'est d'empêcher les pompiers d'intervenir si on a une situation où il faut un sauvetage nautique. Mais pourquoi pas les former? On en avait jasé ensemble, on avait une grosse conversation sur Twitch en se disant, bien, OK, mais on empêche quand on pourrait avoir la formation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services incendie, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, qui ont reçu ces formations-là. Il y a un expert qui parcourt le Québec, qui s'appelle Alain Saint-Arnaud, qui donne une formation aguerrie et qui donne aussi des suivis de compétences. Donc, à chaque année ou aux deux ans, ils retournent avec certaines équipes incendies pour faire ces suivis, ces maintiens de compétences-là. Et il fait autant en eau vive l'été qu'en eau glaciale l'hiver. Donc, il y a possibilité de former, je pense, des corps de service incendie comme ça, des corps de pompiers là, pour s'assurer qu'il n'y a pas de mort qui soit associée à un sauvetage nautique au lieu de simplement dire, bien, vous ne ferez pas de sauvetage nautique. Mais ça, écoutez, tout le monde a sa façon de voir les choses, mais je la trouve un peu ridicule. Je la trouvais un petit peu ridicule cette semaine. Là, on est encore en train de recommander ça. C'est pas fait, mais on espère avoir ce service d'intervention en formation aquatique qui sera offert aux pompiers volontaires pour intervenir en milieu riverain. Ce sont les nouvelles d'aujourd'hui. On va faire un tour, bien sûr, ce midi, mais pour l'instant, c'est Mordicus à Boulevard 102.1 avec Un monde en folie.
Pascal, c'est vrai.
Je suis vraiment contente de le recevoir. Ça fait un petit bout qu'on s'écrit, puis Sarah Dufour était passée en studio avant sa tournée en Chine pour justement parler à quel point elle était contente de faire ça, mais qu'elle comprenait rien que ça lui arrive dans sa vie. Puis finalement, ils sont de retour. Karl Emmanuel Picard, qui est juste devant moi puis qui est bien fatigué sur le décalage horaire parce que tu es arrivé dans les dernières heures là, au Québec.
Moi, je suis arrivé lundi, je pense. Il était minuit.
Mais là, on est rendu jeudi.
Mardi, je sais
pas. Il était mardi. Je pense que c'était mardi quand mardi. Vous êtes arrivé. Puis jeudi maintenant, encore sur le décalage horaire.
Oui, ben, en fait, oui, parce que là-bas, moi, je vivais le jour quand le monde dormait au Québec, puis quand c'était la nuit ou que j'étais supposé dormir, ben là, je faisais mon travail du Québec.
OK, fait que tu faisais du travail en Chine quand même, mais il fallait que tu fasses en sorte que tu sois sur les heures de tous au Québec, mais tu avais aussi ta vie en Chine parce que tu es le gérant, justement, de Sarah Dufour. Mais tu es un gars aussi très, très connu à Québec pour tout ce qui est programmation. Puis on reviendra sur l'Agora du Port de Québec parce que vous avez fait une méchante bonne job, ton équipe et toi, cette année. Puis il y a des shows que je pense tout le monde va vouloir aller voir, absolument, avec une panoplie d'artistes différents, mais des gros noms que vous avez réussi à amener. Puis je veux qu'on en parle. Mais d'abord, parlons de cette tournée-là. C'était quoi la folie d'aller en Chine pour promouvoir les chansons de Sarah Dufour puis un peu le Québec?
Bien, en fait, c'est Simon Gaudry d'Envolé Macadam qui développe des relations avec l'Asie depuis plusieurs années, qui me disait, hey, ça te tente-tu d'aller faire une tournée avec Sarah Dufour en Chine? Je disais, ah, pourquoi pas?
De juste approcher comme ça?
Ouais, c'est un de mes amis. Fait que je disais, hey, Sarah, ça te tente-tu d'aller en Chine? Elle dit, ah, pourquoi pas? Fait que là, on s'est booké ça, puis on est débarqué à Hong Kong, on venait de faire un show à Saint-Hyacinthe, c'était le dernier show de la tournée, je pense qu'il était le 27 ou le 28 avril, puis le lendemain, on prenait l'avion pour Hong Kong, on est arrêté au Japon, on a mangé des sushis, là, on était débarqué à Hong Kong, il était comme 4-5 heures du matin, on est allé prendre une bière, puis c'était assez capoté.
Combien de shows au total?
On a fait, je pense, 5 shows pour 2 semaines. Qu'on était là-bas, là, puis on s'est fait bien des amis. Il y avait des gens dans toutes les shows. Sarah a signé des autographes. Il y a quelqu'un qui a acheté toute la merch de Sarah.
Mais il la connaissait pas avant, là.
Ben,
parce que le public qui était là, c'était des Chinois dans des festivals, là.
Oui, bien, il y avait beaucoup de Chinois qui ne connaissaient pas. Il y en a qui la connaissaient. Il y avait beaucoup d'expatriés aussi. Il y avait beaucoup les gens des consulats. des avocats, des, tu sais, il y a comme une vie là-bas. Là. Moi, on me faisait peur par rapport. Tu sais, on me dit, car là, tu vas en Chine, il faut que tu sois habillé en long. Fait que là, je suis arrivé là, habillé juste en long. J'ai sué ma vie.
Pourquoi on t'avait dit ça?
Pour pas me faire piquer, genre, je sais pas. On m'a dit, il faut que tu te fasses vacciner. Je me suis fait vacciner 5 fois. Je suis le seul qui est tombé malade. Toutes les autres se sont pas fait vacciner, ils n'ont pas tombé malade. Tu sais, genre, on avait
la préparation à faire.
C'est ça, mais finalement, là-bas, c'est plus cool qu'au Québec.
Mais plus cool qu'au Québec?
Ah ouais,
mais c'est sûr que, en tout cas, je sais pas si tu l'as senti, mais il y avait une équipe autour de toi qui, bon, te transportait, t'amenait à des endroits avec, justement, Sarah et tout. Est-ce que tu as senti que c'était organisé puis la manière dont on te présentait les choses, c'était un petit peu arrangé?
Non, ben, je veux dire, à un moment donné, je suis parti me promener tout seul, je me suis perdu là à Shenzhen, puis je trouvais ça cool.
T'as pas senti
quoi que ce soit? Non, je me suis pas senti. Il y a des caméras à chaque coin de rue. Enfin, il y a pas des caméras à chaque coin de rue. Tu me fais un pas, il y a une caméra. Tu tournes ta tête, il y a des caméras. T'es en sécurité en Chine.
T'es en sécurité, t'es surveillé, là, ouais. Aussi. Là. Je pense que c'est le gouvernement qui veut se sentir, ouais, en sécurité en épiant un peu, ouais, tout ce qu'ils font. Mais comment ça a été reçu, finalement, une Sarah Dufour en spectacle dans un festival par les Chinois, admettons qu'ils la connaissaient pas. Toi, tu voyais ça de tes yeux de gérant derrière, fort probablement, Sarah qui est en train de faire une prestation.
Ben, c'était magnifique, tu sais. Elle a réussi à leur faire chanter « J'étais cœuré », tu sais, « Charbaille », des trucs comme ça, puis... T'sais, ils veulent la revoir, on est supposé retourner au mois d'octobre. Non, que du positif. T'sais, j'étais avec Sarah en France, puis je trouve que c'est passé plus de quoi en Chine qu'en France.
Mais c'est-tu parce que la culture les intéresse, vu que c'est carrément différent, puis côté musique?
Je pense que oui. T'sais, j'étais allé dans une ville, puis j'étais dans un restaurant avec deux amis à moi qui sont comme moi, là, t'sais, pas chinois.
Oui.
Puis tout le monde me prenait en photo, nous prenait en photo. Puis,
t'étais l'animal de foire, là.
C'est ça, genre, ils voient pas de je sais pas comment... Si j'étais un blanc,
il n'y a pas beaucoup d'occidentaux, ouais, qui se promènent.
Oui, c'est ça, d'occidentaux, fait que c'était spécial.
Tu te sentais-tu en minorité, justement, à tous les jours,
pas
peu
mal,
importe, ouais, où tu allais? Oh, ouais,
pas mal, hein. Puis les Québécois qu'on rencontrait étaient tellement heureux de nous rencontrer, parce qu'eux autres, là-bas, ils n'en ont pas souvent, les Québécois qui viennent. Là,
c'est des gens qui se sont expatriés pour le travail?
Beaucoup, tu sais, comme il y en a un là, qui s'occupe de faire les sacs pour la SAQ, puis DoorDash qui est là-bas, il y en a un autre qui fait des figurines pour les films, tu sais. Là-bas, là, mettons, on était à table, puis on avait besoin de Tylenol, des trucs comme ça, on se loguait sur Amazon chinois, puis en dedans de 10 minutes, ils nous livraient nos Tylenol. On avait besoin d'un exacto pour découper une affiche à l'hôtel. En dedans de 15 minutes, on recevait l'exacto.
Tout était livré. Et,
à chaque coin de rue, il y a des montagnes de boîtes d'Amazon où ce que le monde va chercher leurs boîtes.
C'est fascinant. On est
des
d'ailleurs...
affaires assez fascinantes là-bas qui sont plus à l'avant-garde que nous, on l'est. Là.
Une anecdote que tu racontes depuis que tu es arrivé parce que tu te rends pas compte que ça t'est arrivé, justement.
Faut que je réfléchisse.
Puis par rapport aux chansons de Sarah Dufour, elle chantait, mettons, baseball, puis les gens dansaient puis chantaient, là.
Oh, vraiment? Puis justement, dans cette chanson-là, elle parle de fumer du pot, ben là, elle a chanté fumer des clopes, des tops.
Elle a changé des choses?
Ouais, parce qu'en fait, on devait faire un gros festival devant 30 000 personnes là-bas. C'était la base du voyage, puis ce festival-là, il était annulé par le gouvernement chinois. Mais ils ont tous lu nos paroles, puis il y a deux chansons qu'elle ne pouvait pas faire.
C'est lesquels?
Baseball, puis... j'ai oublié le nom.
Mais parce qu'il y avait des paroles qui convenaient pas au gouvernement. C'est fascinant, ça, pareil. Tu sais, quand je te dis, mettons, est-ce que tu as remarqué que tu étais un peu épié puis que c'était un peu arrangé autour de toi? Bien, ça en fait partie. C'est, ouais, plus cool qu'au Québec, je le sais pas. Mais pour de la musique, puis pour un choc culturel, puis voir les différences, ça, assurément. Ouais. Là. Fait qu'ils ont regardé toutes les paroles des chansons.
Oui, même les vidéos. Il fallait envoyer une vidéo de Sarah en spectacle pour chaque chanson. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, les bars là-bas ferment pas. Le monde fume des cigarettes dans les bars. Le monde sort des bars avec leur consommation. T'sais, j'ai rencontré des gens de mon âge qui possèdent des buildings, qui ont des autos hors de prix, puis qui ont l'air d'être bien heureux. Pis tout. Fait que c'est des affaires que je n'étais pas habitué de vivre. Au Québec, il n'y a personne qui fume dans les bars. Le monde, quand ils sortent pas avec leur consommation dehors, fait que c'est quoi que ça veut dire exactement, ça? Là,
ils sont surveillés, ils sont épiés, ils sont réglementés, mais d'un autre côté, il y a comme une liberté personnelle, ouais, qui t'a fait un peu, ouais, réagir.
J'ai vu aucune police, aucun gendarme armé, c'est spécial.
On vous rappelle qu'on parle avec Carl-Emmanuel Picard, gérant de Sarah Dufour, qui arrive d'une tournée en Chine. Puis sinon, Sarah, est-ce qu'elle a trippé? Est-ce qu'elle referait ça, des tournées à travers le monde après son expérience? Parce que là, quand même, annuler le festival en Chine, ça veut dire que...
Ben, ça, on n'a pas parlé beaucoup parce que c'était notre fierté d'aller là, c'était, ouais, de faire le gros festival. Puis là, ben, quand on a su ça 2 semaines avant de partir, c'était un peu... décevant, mais le reste était vraiment parfait. Donc, ça, au final, c'est super. Mais là, j'étais en train de développer des relations à tâcher votre truc avec le Vietnam, le Cambodge, puis tout. Puis on va aller faire des shows là, dans ces villes-là. Semble-t-il qu'il y a des francophones, semble-t-il que les locales, ils ont...
Ils ont de la place pour... Est-ce que quand tu fais ces communications-là avec différents pays, c'est eux finalement qui vous invitent parce qu'ils ont des subventions ou encore ils ont des budgets pour faire rayonner peut-être des artistes d'ailleurs dans leur pays?
Bien,
ou...
là, pour ce voyage-là, dans le fond, c'est nous qui est allé chercher des subventions à travers différentes branches du gouvernement du Québec puis du Canada, mais c'est très peu. On a investi beaucoup, nous, de nos poches, moi et Sarah. On y croyait, tu sais, on avait le goût de le vivre. C'est sûr qu'on ne pourra pas... faire ça encore 10 fois, là, payer des voyages de même, mais c'est quand tu vas en voyage dans le sud, dans un tout compris, là, on est allé en voyage en Chine, puis c'était divertissant.
Si vous avez des questions, 88-971-1021 ou encore sur Twitch. Bon, Carl-Emmanuel, je veux quand même parler de l'Agora du Port de Québec. On est à la troisième année du retour des spectacles à cet endroit spectaculaire-là. Full d'événements diversifiés, en fait, qui attendent les gens de Québec puis de partout, tellement qu'il faut faire des choix qui sont déchirants, parce que des fois, bien, il y a des spectacles en même temps que le Festival d'été de Québec, mais beaucoup affiche déjà complet.
Ben oui, on commence avec Styx, là, samedi prochain, qui est déjà complet depuis plusieurs semaines.
Qu'est-ce qui s'est passé, Carl-Emmanuel, avec l'Agora du Port de Québec?
Ben moi, quand j'étais jeune, j'allais là avec mon père, tu sais, qui était le traiteur pour les artistes. J'ai grandi là, puis ça a été fermé pendant des années à cause des plaintes de bruit et tout. Puis après, un peu après la COVID, c'est revenu. Puis on m'a invité à devenir en charge de la programmation de l'Agora. J'ai fait mes premiers spectacles il y a 3 ans.
On a tout réinsonorisé aussi. Je pense qu'on a fait des modifications, on a fait des rénovations pour permettre justement qu'il y ait peut-être qu'il y a pas de plainte.
En fait, la clé du succès de l'Agora présentement, c'est qu'on a impliqué les citoyens. C'est-à-dire qu'on a un comité de programmation, puis les citoyens, on leur donne des billets. Donc, tous les gens autour sont invités à venir voir les spectacles. Puis quand on est là, sur place, ben moi, je me promène avec les gens avec qui je travaille, puis on est à l'écoute. Puis s'il y a des bières qui traînent par terre, ben moi, je vais les ramasser. Tu sais, on essaye de faire en sorte que les citoyens aiment ça, tu sais. Aller à l'Agora, puis présentement, il n'y en a pas de plainte.
Peut-être qu'aussi, si on y va en tant que spectateur, il faut se garder en tête que si on a trippé sur l'expérience d'aller voir un show, il faut se réguler soi-même aussi, puis se ramasser. Là. C'est un peu collectif comme projet, l'Agora du Port de Québec.
Tu sais, souvent, là, les gros shows punk, tout, c'est ceux qui ont le moins de problèmes. Des fois, c'est les shows de mon oncle, je sais pas trop, où ce que le monde a pris un verre, puis là, après ça, ils marchent sur les condos, puis là, ils crient. Ça dérange un peu le monde, mais en même temps. On irait au restaurant, puis il serait festif, puis il crierait après à cause qu'ils sont heureux.
Là. Ah oui, c'est partout. Là.
C'est partout.
OK, on lance la saison la semaine prochaine avec un groupe, je pense, qui a fait des heureux à travers toutes les générations. Là. Si tu as écouté ça avec tes parents, ben, tu vas vouloir aller à l'Agora du Port de Québec pour entendre Styx sur place. Tu as travaillé fort pour les amener ici ou ils étaient déjà conquis puis ils voulaient venir?
Bien, je pense qu'ils ont déjà joué à l'Agora là, très longtemps. Moi, j'étais ami avec le gérant de Styx. On a bâti une tournée aussi au Québec à travers ça. Ça n'a pas été super compliqué. Puis après ça, on s'en va avec Francis Cabrel, qui est sold out.
Oui.
Ça, c'est légendaire.
Francis Cabrel sous les étoiles. On écrit « Soirée exceptionnelle avec Francis Cabrel et ses musiciens ». Il ne sera pas tout seul.
Ouais.
Il va être accompagné.
Ouais.
C'est une surprise, ça, pour Québec, d'avoir amené Francis Cabrel ou c'est quelque chose qui était entre les branches depuis longtemps?
Bien, Francis Cabrel vient souvent à Québec. T'sais, souvent, c'est au Grand Théâtre. Je pense que c'est une première là, qui fait une autre salle. Maintenant, moi, à chaque semaine... L'été, je check le radar météo et tout parce qu'il faut qu'il fasse beau. Tu sais, c'est mouillé assez haut, un show de France Cabrel, ça va être dol en maudit.
C'est-tu annulé dans ce temps-là?
Ben, c'est beau temps, mauvais temps. Tu sais, normalement, ça va avoir lieu, mais tu sais, à un moment donné, c'est hors de notre contrôle. Ouais. Là, si la pluie est trop torrentielle ou qu'il y a du tonnerre, ben.
Par rapport à l'équipement aussi.
Mais
ben,
à date, depuis 2-3 ans, il y a un show là, qu'on a dû vraiment annuler à cause que c'était Alter Bridge, là, ça a été un désastre. Mais sinon, Milky Chance, il a fait super beau. Rancid, il a fait super beau. Styx, il annonce super beau. Fait que suffit qu'on continue à toucher du bois puis que le beau temps soit notre bord.
The Australian Pink Floyd Show, Styx, Francis Cabrel. Vous avez aussi un genre de partenariat avec le Festival Koué qui va avoir un moment le 21 juin à l'Agora du Port de Québec. Il y a plusieurs tripeux qui vont pouvoir se payer un méchant bon show aussi avec Québec Redneck Bluegrass Project qui va être sur place. Ziggy Albert qui va venir aussi performer. Il est venu à Cigale l'été dernier. Il revient, il adore Québec. Puis c'est un peu le genre de scène qu'il fait souvent à l'international. Patrick Watson. Qu'est-ce qui se passe? Sum 41. Je pense que tout le monde est un peu dans le bateau de Sum 41 parce que c'est la dernière tournée. On veut les voir, on veut triper avec eux. Puis ils sont encore à Québec parce qu'on les a vus dans la dernière année. Mais est-ce que tu veux faire de l'Agora du Port de Québec la place pour aller voir des shows à travers les années?
Bien, absolument. Là, c'est un projet de... Au départ, c'est un projet de 5 ans. Là, c'est rendu un projet de 8 ans. À chaque année, ça s'améliore. Les gens de Québec vont voir, là, on est rendu avec des infrastructures. Honnêtement, j'ai hâte de voir où qu'on va en être l'an prochain.
Est-ce que c'est difficile d'arrimer des bandes comme ça, de renommer avec tout ce qui se passe à Québec, comme le Festival d'été de Québec, le Centre Vidéotron et tout ça? T'sais, je sais que toi, tu es tout le temps à ficeler avec
Pour moi, c'est très difficile. T'sais, moi, je suis comme pas le gros joueur. Je suis un peu indépendant. Fait que moi, je suis à travers justement le Centre Vidéotron puis le Festival d'été. Fait que c'est, pour moi, c'est une chance inouïe d'avoir l'Agora parce que j'ai du mal à faire des shows au Centre Vidéotron, puis je ferai pas de show au Festival d'été. Fait que pour moi, c'est un beau terrain de jeu. Puis,
c'est ça qui fonctionne auprès des artistes, finalement, quand tu présentes la scène dans laquelle ils vont performer.
Puis là, ce qui est le fun, c'est que les gens du Festival d'été louent l'Agora, les gens du Centre Vidéotron louent l'Agora aussi. Donc, c'est un terrain qui est neutre. C'est ça que j'aime. Je pense que tout le monde à Québec devrait travailler ensemble et non un contre l'autre.
Ouais, moi, je vais le prendre, toi. Ouais, c'est moi qui est là, puis de se chicaner là-dedans. En tout cas, félicitations pour le travail que tu as fait. Agora du Port de Québec, si vous voulez aller voir la programmation, dépêchez-vous parce que, honnêtement, les billets s'envolent très vite pour chacun des spectacles qu'on a nommés. Ça va être une saison hors pair. Ça commence en fin de semaine prochaine, tu l'as très bien dit, avec Styx, le 25 mai prochain. Il y a quelques billets qui se sont libérés aujourd'hui. Si vous voulez mettre la main là-dessus, c'est sûr, ça va être un excellent show. Comme on dit en québécois, garochez-vous sur les paires de billets qui ont été libérés. Merci beaucoup, Carl-Emmanuel Picard, d'être passé. Bonne chance avec tes projets d'amener Sarah Dufour au Vietnam.
Au Cambodge.
Puis je pense qu'elle va être de passage prochainement. Là. C'est-tu demain qu'elle s'en vient avec l'équipe du retour?
Oui, je pense qu'ils sont en train de préparer ça.
Exact. Donc, manquez pas Sarah Dufour demain sur les ondes de Boulevard 102.1 dans l'émission de Denis Gravel, qui tripe sur elle, pas à peu près. Fait que c'est sûr qu'il est déjà comptable et fébrile de la recevoir. Il y aura encore plus de, comment dire, de détails sur la tournée en Chine, puis elle va pouvoir parler aussi de son vécu, comment elle l'a ressenti, ça. Donc, manquez pas l'émission de Gravel dans le retour demain. Merci, Carl.
Merci beaucoup.
À bientôt. Ça amène de Terrible News à Boulevard 102.1, le stéréo. C'est dans vos oreilles, bien sûr, dans leur CV.
Leur CV. Avec Pascal CV.
C'est sous le soleil de Québec qu'on termine l'émission ensemble. Ouais, leur CV tire à sa fin. Merci beaucoup d'avoir choisi Boulevard 102.1 au travail, entre autres. Hein. Je pense que là, tout le monde travaille fort parce qu'on a une grande fin de semaine qui s'en vient. 14 degrés, c'est ce qu'on a dehors. 20 degrés, ce sera le maximum pour aujourd'hui. Ben, vendredi, samedi, dimanche, lundi prochain, c'est du soleil. Puis ça va monter jusqu'à 25 degrés. On parlait des réseaux sociaux. L'âge auquel vos enfants ont eu droit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux, c'est quoi? 88-971-102.1 ou encore sur Twitch. Puis vous avez beaucoup commenté la chose. Je vous avais dit qu'on allait revenir ensemble pour conclure l'émission. Il y a eu beaucoup de commentaires, entre autres des gens qui disent, moi là, quand les parents d'amis de mon fils interdisaient les réseaux sociaux à leurs enfants, ça finissait que quand ils arrivaient à la maison pour jouer avec mon fils ou passer du temps avec mon fils, ils demandaient toujours à avoir des réseaux sociaux ou encore de pouvoir fouiller sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai eu des amis de mon fils qui venaient juste pour ça à la maison parce qu'ils étaient trop en sanction puis c'était pas discuté avec la famille. Quelqu'un qui dit, moi, mon enfant a eu le droit aussitôt qu'il a eu envie d'être sur les réseaux sociaux. Cependant, je sais pas si c'est normal de le faire en tant que parent, mais j'ai une pleine possession de son compte, ce qui veut dire que j'ai droit d'aller fouiller un peu partout. C'est pas mal la réaction que j'ai réussi à tirer de mon enfant en ayant un contrôle sur ses réseaux sociaux à partir de 13 ans. Son jeune a eu le droit d'avoir des réseaux sociaux, mais ce qu'elle dit aussi, c'est qu'il n'y a pas de photo de lui en ce moment. Quelqu'un qui dit, j'ai jamais réussi à faire en sorte que mon enfant n'ait pas de réseaux sociaux. Ça a été une grande, grande crise de larmes, comme quoi j'étais un mauvais parent, que j'étais le pire parent de l'univers en lui empêchant d'en avoir à partir de 16 ans seulement. Pour moi, c'était acceptable, mais j'ai dû plier parce que tous les élèves qu'il côtoyait au quotidien avaient des réseaux sociaux. Donc, à l'école, j'avais aucune façon de réguler la chose. Quelqu'un qui dit « Nous, on n'a pas eu le choix. » Au collège de mes gars, ils passent par Facebook et Messenger pour les cours, pour les remises de devoirs et autres. C'était vraiment une façon de communiquer. Quelqu'un qui dit « J'ai 21 ans. Quand j'étais jeune, j'ai eu Facebook à 8 ans et maintenant, je suis conscient de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé qu'on me l'ait interdit jusqu'à minimum 14 ans. » C'est William qui se confie là-dessus. Quelqu'un d'autre qui dit « Moi, je peux te confirmer que je suis vraiment inquiet pour mes jeunes. Quand je les vois mettre un peu de tout pour se rendre intéressant sur les réseaux sociaux, je me dis que j'ai été chanceuse de ne pas avoir les réseaux sociaux quand j'étais jeune pour vivre ma vie en paix, faire mes erreurs en paix, faire mes niaiseries en paix et de ne laisser aucune trace sur le web. » Ça, c'est vrai, c'est un très bon point. On est chanceux que les réseaux sociaux n'existaient pas nécessairement, du moins de la manière dont ils existent maintenant, auparavant. Parce que notre jeunesse, on a pu la vivre loin des écrans, loin des caméras, loin des vidéos, puis de gens qui pourraient mettre ça un petit peu partout sans notre consentement ou avec notre consentement, puis notre jugement de jeune ado qui dit « Ah, ça, c'était cool ce que j'ai fait, je veux le mettre, je veux l'afficher », mais que plus tard, tu regrettes. Ou encore des photos partout avec de l'alcool quand c'est pas légal ou des vidéos qui ont un langage que tu souhaites pas qu'il soit affiché. Ça, c'est vrai que les jeunes sont un petit peu sont exposés d'une manière où ils vont donc peut-être justement changer les choses dans le futur, mais qui n'auront pas la chance de changer ces choses-là. Mais je vous rappelle qu'on en parle parce que les jeunes caquistes veulent limiter l'âge à 16 ans pour les réseaux sociaux avoir le droit d'y aller. Ça fait tellement réagir, vous parlez beaucoup. Quelqu'un qui dit « Avant 14, 16 ans, moi, mes enfants en avaient pas. » Quelqu'un qui dit « J'ai ouvert mon Facebook, rendu en appartement à 17 ans pour rester en contact avec mes amis de Gaspésie. J'étais rendu à Québec pour les études, mais personnellement, avec toute l'intimidation, ma fille n'aura pas accès aux réseaux sociaux avant un bon bout. » Quelqu'un qui me dit « Ça me fait tellement peur. Moi, je suis pas pressée du tout de les mettre là-dessus, mais je sais pas si je vais avoir la chance de savoir lorsqu'ils seront. » Quelqu'un qui dit « Les parents sont trop souvent sur leur téléphone, surtout lorsque les enfants sont bébés. » Donc, oui, c'est vrai. Ils apprennent à être sur les réseaux sociaux, sur les écrans et sur le cellulaire de cette manière-là. Hein. C'est du mimétisme, finalement. Hey, vous êtes tellement pertinent. Continuez d'écrire 418-971-1021 ou encore sur Twitch. On en jasera dans Marceau le midi qui commence dans quelques instants. Merci d'avoir été dans l'heure CV. Je vous rappelle que l'entrevue avec Karl-Emmanuel Picard, le gérant de Sarah Dufour, qui revient tout juste d'une tournée avec elle en Chine et qui nous a donné quelques anecdotes quand même et qui nous a parlé aussi de la programmation de l'Agora du Port de Québec qui commence en fin de semaine prochaine, est disponible sur le site de Boulevard 102.1 dans quelques instants. Si vous avez manqué ça, allez retourner écouter. Vincent Vallière, le temps est long, à Boulevard 102.1.